Chapitre 7. Donne-moi un prénom masculin, demanda Franck. Là, maintenant, sans réfléchir. Florence fumait une gitane, assise sur les marches de l'une des entrées publiques du mastodonte de briques rouges, 2 place Mazas, dans le 12e arrondissement. De là où elle se trouvait, elle apercevait les phares des voitures sur le pont d'Austerlitz et les ombres noires des péniches le long de la Seine. Quant à Charcot, il tentait de garder son esprit occupé pour ne pas songer à l'autopsie qui l'attendait entre ses murs.
François, comme notre cher président.
Franck lui tendit son carnet. Dessus, il avait inscrit une dizaine de prénoms, dont Patrick, Philippe, Jean, Pascal, Michel. Elle leva un œil interrogateur vers son coéquipier.
Je n'ai pas trop la tête à jouer aux devinettes.
J'ai noté des prénoms parmi les plus répandus. Pourtant, aucun d'entre eux ne correspond à ta réponse. Alors imagine si j'en écris un seul, moins commun qui plus est, comme Victor. C'est quoi la probabilité pour que tu répondes Victor ? Elle haussa les épaules.
Quasi nul à l'évidence ?
Exactement. Et c'est pareil avec Delphine. Malgré ça, je rédige 2 lettres tapées à la machine, je joins un exemplaire tout neuf des Fleurs du Mal, le livre n'a jamais été feuilleté, ça se voit, je colle 2 timbres et je vais poster l'enveloppe samedi dernier. Ça me prend du temps, de l'énergie, ça me coûte de l'argent. Mais je suis sûr que ma cible, Philippe Vasquez, va penser au prénom écrit au vers 14 de la page 122 du livre, prénom qui est aussi celui de notre victime. Ne dis pas ça, tu ne peux pas en être sûr, et pourtant c'est précisément ce qui s'est produit. Il a pensé Delphine. Il a ouvert le livre selon les instructions, lu le vers correspondant, et bam ! Delphine.
Tu vois bien que c'est débile.
Vasquez nous baratine. Ça ne peut pas s'être passé comme il l'a décrit. Il se fout de nous. Elle fixa le brougeoyant de sa cigarette. On a déjà eu le cas d'une femme qui empoisonnait son fils pour qu'on le soigne à l'hôpital et ainsi attirer l'attention sur elle, expliqua-t-elle. Munchausen quelque chose, ça s'appelle. Les médecins ont mis des semaines avant de comprendre qu'elle tuait son propre môme à petit feu. Le pire, c'est qu'elle l'aimait par-dessus tout. Alors ce Vasquez, peut-être qu'il nous fait une sorte de Munchausen un peu plus trash. Je crois qu'il est sincère. J'ai vu dans quel état il était en arrivant au poste de garde.
Entre ce que tu crois et ce qui est vrai, tu sais, tu vas en voir de toutes les couleurs dans ce métier. Et apprendre à ne pas faire confiance aveuglément. La confiance, elle se mérite.
Franck acquiesça brièvement, mais il resta sur ses convictions. Tout ça ne peut pas relever du pur hasard. Le tueur savait que cette révélation enclencherait tout le reste. Il était sûr de son coup. S'il n'était pas tombé sur le bon prénom, Vasquez ne se serait vraisemblablement pas rendu dans le marais et nous n'aurions pas découvert le corps. Enfin, pas aussi vite, tout au moins. Cette suite d'événements était inscrite dans un plan très élaboré pour nous mener jusqu'au cadavre. Florence se releva et écrasa son mégot du talon de ses Doc Martens couleur rouille.
Alors c'est quoi ta théorie? Et ne me parle pas d'hypnose ou de ce genre de conneries. On ne peut pas forcer quelqu'un à penser à quelque chose d'aussi aléatoire qu'un prénom mentionné à telle page d'un bouquin de poèmes.
Quand j'étais gosse, mon père était fou de PMU et jouait au tiercé tous les dimanches.
Charcot, je n'ai...
Écoute-moi. On n'avait pas beaucoup de sous, mais le tiercé, c'était son dada, sans mauvais jeu de mots.
Si, c'est mauvais.
Une fois par an, il m'emmenait dans un hippodrome du côté de Lille. C'était notre grande sortie. Au cours d'une de ces journées, il m'a raconté l'histoire d'un des jockeys qui aurait dû prendre le départ d'une course à laquelle nous assistions, mais qui était mort 15 jours auparavant. Charcot, laisse-moi terminer juste une minute. Ce jockey a eu l'accident le plus bête qui soit. Il se promenait en ville. Suite à un gros coup de vent, une barre d'échafaudage de plus de 20 kilos lui est tombée sur le crâne et l'a tué. Quand les ambulanciers ont fouillé ses poches pour obtenir son identité, ils ont découvert un morceau de papier sur lequel était écrit « Je vais mourir aujourd'hui, le 3 juin 1971, d'un accident. Dites à ma femme et mon fils que je les aime. » C'était la date exacte de sa mort, le 3 juin 1971. Florence médita quelques secondes.
« C'est impossible. Ce qui te pousse à dire que c'est impossible, c'est que tu vois uniquement la condition finale, le papier au fond de la poche avec la bonne date, et non la condition initiale, le jockey rédigeant son mot.
Ce matin-là, quand il écrivait son message, il ne pouvait pas savoir qu'il allait mourir. L'accident était imprévisible, le coup de vent, la barre qui se décroche.
Et je ne comprends toujours pas. Pourtant, l'explication est toute simple. Il n'y a rien de plus rationnel.
Accouche, bordel ! Le sourire de Franck, qui s'amusait de l'impatience de sa coéquipière, s'effaça soudainement. Du menton, il indiqua la passerelle. Les parents de la victime arrivaient. Ils se tenaient par la main et marchaient d'un pas lourd, comme si une force les empêchait d'avancer. Florence défia Charcot d'un œil noir, puis alla à leur rencontre. Ensemble, ils entrèrent dans l'institut médico-légal, où le calme contrastait avec les bruits de la ville. L'odeur de la mort leur colla à la peau. La mère gardait la tête baissée et n'arrêtait pas d'essuyer le bout de son nez avec un mouchoir. Accompagnée d'un employé mortuaire, Ils se rendirent dans un box séparé d'une petite pièce toute blanche par une vitre d'environ 1 mètre sur 2. De l'autre côté reposait un brancard à roulettes, éclairé par la lumière crue d'un néon. À la simple vue du tissu vert qui recouvrait la silhouette de sa fille, Catherine Escrémieux explosa en sanglots. Son mari la serra contre lui. Franck trouvait le procédé immonde, les lieux tellement impersonnels. Il rageait de se tenir là, inutile, alors que l'auteur de cette abomination circulait librement quelque part. L'employé mortuaire alla se positionner au niveau du brancard et attendit les ordres. Florence s'assura que les parents étaient prêts, puis fit un signe à l'employé, qui leva le drap et le replia sur les épaules. Les gars des pompes funèbres avaient essayé d'arranger la face meurtrie du mieux possible, sans la maquiller ni toucher à la structure osseuse puisque l'autopsie n'avait pas encore eu lieu. La mère se mit à trembler, s'approcha de la vitre jusqu'à ce que son front vienne la heurter, alors que l'expression du mari se transforma, se figeant de stupeur, comme si, d'un coup, il faisait face à une situation sans aucune logique. Et, tandis que sa femme pleurait et riait en même temps, il lâcha d'une voix blanche : « Ce n'est pas Delphine. Ce n'est pas notre fille. »